Chapitre 16. Journal du docteur Seward. Suite. Il était minuit moins un quart lorsque nous escaladâmes le mur bas du cimetière. La nuit était obscure. De temps à autre seulement, la lune apparaissait entre les gros nuages que le vent chassait à travers le ciel. Nous formions un groupe serré. Van Helsing, toutefois, marchait légèrement en tête pour nous montrer le chemin. Lorsque nous fûmes près du tombeau, j'observais attentivement Arthur, car je craignais que cet endroit plein de si tristes souvenirs ne le troublât profondément. Mais il garda tout son sang-froid. Je supposais que le mystère même de ce que nous entreprenions atténuait en quelque sorte son chagrin. Le professeur fit tourner la clé dans la serrure, ouvrit la porte, et voyant que chacun de nous avait un mouvement d'hésitation, résolut la difficulté en entrant le premier. Nous le suivîmes, et il referma la porte. Il alluma alors une lanterne, et montra le cercueil. Toujours en hésitant, Arthur avança, tandis que Van Helsing s'adressait à moi. « Vous étiez ici hier avec moi. Le corps de Miss Lucy était-il dans ce cercueil ?»«
Oui, » répondis-je.
Il se tourna alors vers les autres.
« Vous entendez ?» leur dit-il. « Et pourtant il y a encore quelqu'un qui ne me croit pas. »
Il prit son tournevis, enleva le couvercle du cercueil. Arthur regardait, très pâle, mais il ne disait rien. Dès que le couvercle fut retiré, il approcha plus près encore du cercueil. De toute évidence, il ignorait qu'il y avait un cercueil de plomb. Quand il vit la déchirure qui y était faite, le sang lui monta un instant au visage, mais presque aussitôt, il redevint blême. Il restait toujours silencieux. Van Helsing souleva le morceau de plomb. Tous nous regardâmes et frémîmes d'horreur. Le cercueil était vide. Pendant plusieurs minutes, personne ne prononça un seul mot. Ce fut Quincy Morris qui finalement rompit le silence. « Professeur, fit-il, j'ai confiance en vous, je vous l'ai dit, votre parole me suffit. Aussi, en temps ordinaire, je ne vous poserai pas une question comme celle-ci, je ne voudrais pas paraître mettre en doute ce que vous avancez, mais nous sommes ici en présence d'un mystère si grave que cette question me semble permise. Est-ce vous qui avez fait cela ? Je vous jure par tout ce que j'ai de plus sacré que je ne l'ai pas enlevé d'ici, que je n'y suis absolument pour rien. Voilà ce qui s'est passé. Avant-hier soir, nous sommes venus ici, mon ami Seward et moi, animés des meilleures intentions, croyez-moi. J'ai ouvert ce cercueil qui alors était scellé et nous nous sommes aperçus qu'il était vide. Comme maintenant. Nous avons alors décidé d'attendre et, en effet, nous avons bientôt vu une silhouette blanche à travers les arbres. Le lendemain, hier, nous sommes revenus en plein jour et elle était là, étendue dans le cercueil, n'est-ce pas, mon cher John ?
Oui.
La première nuit, nous sommes arrivés à temps. Un autre enfant avait disparu et, Dieu merci, nous l'avons retrouvé entre les tombes et ne portant aucune blessure. Hier étant donc déjà venu dans la journée, je suis revenu un peu avant le coucher du soleil, car quand le soleil se couche, les non-morts peuvent sortir de leur tombe. J'ai attendu ici toute la nuit jusqu'au matin, mais je n'ai rien vu. Sans doute est-ce parce que j'avais suspendu à ces portes de l'ail que les non-morts ne supportent pas, et d'autres choses aussi qu'ils évitent toujours. La nuit dernière, on n'est pas sorti. Aussi, ce soir, avant le coucher du soleil, suis-je venu enlever l'ail et les autres objets que j'avais accrochés à la porte. Voilà pourquoi nous trouvons le cercueil vide. Mais suivez-moi bien. Jusqu'ici, les choses sont fort étranges. Venez vous cacher avec moi non loin d'ici et vous verrez des choses beaucoup plus étranges encore. Donc, et se disant, il referma la lanterne. Sortons.
Il ouvrit la porte. L'un après l'autre, nous passâmes devant lui qui sortit le dernier et derrière lui referma la porte à clé. Oh, que l'air nocturne semblait frais et pur après l'horreur de ce caveau, qu'il était agréable de voir les nuages fuir à toute vitesse dans le ciel et la clarté de la lune qui apparaissait entre deux de ces bizarres et sauvages chevauchées, semblables aux instants de bonheur qui, dans une vie d'homme, chassent et croisent les instants de tristesse. Qu'il était doux de respirer cet air frais qui n'était chargé d'aucune odeur de mort, qu'il était réconfortant d'apercevoir les lueurs du ciel au-delà de la colline et d'entendre au loin le bruit confus qui monte d'une grande ville. Chacun de nous avait l'air très grave, accablé par la révélation qui venait de lui être faite. Arthur se taisait. Il essayait, je le devinais, de saisir le pouvoir de tout ceci, de pénétrer la signification profonde du mystère. Moi-même, je me sentais plutôt patient, prêt à rejeter de nouveau mes doutes et à accepter les conclusions de Van Helsing. Quincy Morris, lui, restait impassible, à la façon d'un homme qui admet tout ce qu'on lui dit, mais l'admet avec un esprit méfiant. Comme il ne pouvait pas fumer, il se mit à chiquer. Quant à Van Helsing, il était occupé à une besogne bien précise. Tout d'abord, il prit dans son sac une matière qui ressemblait à un biscuit mince, à une sorte d'hostie, et qui était soigneusement enveloppée dans une serviette blanche. Puis deux poignées d'une substance blanchâtre, de la pâte, eût-on dit. Il émietta le biscuit et, entre ses mains, le travaillant avec la pâte, n'en fit qu'une seule masse. Ensuite, il découpa celle-ci en bandes minces qu'il roula pour les placer l'une après l'autre dans les interstices tout autour de la porte du tombeau. Cela n'allait pas sans m'étonner, on le devine, et comme je me trouvais près de lui, je lui demandai ce qu'il faisait. Arthur et Quincy, curieux eux aussi, s'approchèrent de nous. « Je ferme le tombeau, me répondit-il, afin que l'anneau morte ne puisse pas y rentrer. Et c'est cette sorte de pâte que vous y mettez qui l'en empêchera ? » fit Quincy. « Vraiment, on dirait que vous jouez. N'est-ce pas ? Mais de quoi vous servez-vous donc ?» C'était Arthur qui venait de poser cette question. Van Helsing se découvrit en signe de respect, tandis qu'il répondait « L'hostie, je l'ai apportée d'Amsterdam, j'ai obtenu un indulte. » Réponse bien faite pour impressionner le plus sceptique d'entre nous, et chacun sentit que devant un dessein aussi grave du professeur, un dessein qui l'amenait à se servir de la chose la plus sacrée, il était impossible de douter encore. Au milieu d'un silence par lequel, à notre tour, nous témoignions tout le respect que nous éprouvions, nous allâmes chacun prendre la place que Van Helsing nous avait désignée autour du tombeau, mais où il était impossible à quiconque de nous apercevoir. Je plaignais mes compagnons, mais surtout Arthur. En ce qui me concernait, mes visites précédentes au cimetière m'avaient accoutumé à ce guet lugubre et horrible, et cependant, si moins d'une heure auparavant je rejetais encore l'épreuve qu'avançait Van Helsing, maintenant le cœur me manquait. Jamais les tombes n'avaient paru dans la nuit d'un blanc aussi effrayant. Jamais les cyprès, les ifs, les genévriers n'avaient symbolisé de la sorte la mélancolie. Jamais les arbres, jamais l'herbe n'avaient ployé sous le vent de cette façon sinistre. Jamais les branches n'avaient craqué avec tant de mystère et jamais les hurlements lointains des chiens n'avaient fait monter dans la nuit un tel présage de malheur. Notre silence dura longtemps, silence profond, douloureux. Puis enfin, le professeur attira notre attention. Chut, chut, chut. Et du doigt, il nous montrait, venant de l'allée des ifs et s'avançant vers nous, une silhouette blanche. Une silhouette blanche, encore assez indistincte et qui tenait contre sa poitrine quelque chose de sombre. Soudain, elle s'arrêta et au moment même, un rayon de lune entre deux nuages éclaira cette apparition. C'était une femme vêtue d'un linceul. Nous ne voyions pas le visage car elle gardait la tête penchée vers ce qu'elle portait dans les bras et que nous reconnûmes bientôt pour être un enfant blond. Elle s'arrêta et on entendit un petit cri aigu tel celui que pousse parfois un enfant dans son sommeil, ou un chien qui rêve couché devant le feu. Tous nous voulûmes nous précipiter vers elle, mais Van Helsing, que chacun de nous voyait derrière son if, d'un geste de la main nous arrêta. La silhouette blanche se remit à avancer. Elle fut bientôt assez près de nous pour que nous la distinguions clairement, et la lune brillait toujours. Je sentis mon cœur se glacer. Et au même moment, j'entendis le cri d'horreur étouffé d'Arthur. Nous venions de reconnaître les traits de Lucy Westenra. Lucy Westenra, mais à quel point changée ! La douceur que nous lui avions connue était remplacée par une expression dure et cruelle, et au lieu de la pureté, son visage était marqué de voluptueux désirs. Van Helsing quitta sa cachette, et faisant de même, nous avançâmes jusqu'à la porte du tombeau devant laquelle nous nous rangeâmes tous les quatre. Van Helsing éleva sa lanterne dont il ouvrit la petite porte et dont la lumière éclaira le visage de Lucy. Ses lèvres étaient écarlates, toutes humides de sang frais, dont un filet avait coulé sur son menton et souillé son vêtement immaculé de morte. À nouveau, l'horreur nous fit frémir. À la lumière vacillante de la lanterne, je sus que même les nerfs d'acier de Van Helsing avaient cédé. Arthur se trouvait à côté de moi, et si je ne lui avais pas saisi le bras, il serait tombé. Quand Lucy, j'appelle Lucy cette chose qui était devant nous puisqu'elle avait la forme de Lucy, nous vit, Elle recula en laissant échapper un grognement furieux tel un chat pris à l'improviste. Puis ses yeux se posèrent sur nous, l'un après l'autre. C'étaient les yeux de Lucie quant à la forme et à la couleur, mais les yeux de Lucie impurs et brillants d'un feu infernal au lieu de ces douces et candides prunelles que nous avions tous tant aimées. À l'instant, ce qui restait de mon amour se changea en un sentiment fait de haine et d'exécration. Si on avait dû la tuer alors, j'aurais voulu le faire moi-même et avec quel cruel plaisir, tandis qu'elle continuait à nous regarder de ses yeux flamboyants et pervers. Son visage rayonna d'un sourire voluptueux. Seigneur, que c'était odieux à voir, aussi impitoyable qu'un démon. D'un mouvement brusque, elle jeta à terre l'enfant que, jusqu'ici, elle avait tenu serré contre son sein, grondant cette fois en lui jetant un dernier regard comme un chien gronde quand il est forcé d'abandonner un os. L'enfant cria encore, puis resta là, immobile et gémissant. La dureté avec laquelle elle avait accompli ce geste arracha un cri de douleur à Arthur. Lorsqu'elle avança vers lui, les bras tendus et souriants, toujours du même sourire lascif, il recula et se cacha le visage dans les mains. Cependant, elle avançait toujours vers lui en disant sur un ton langoureux, tandis qu'elle avait des gestes pleins de grâce et de volupté, « Venez avec moi, Arthur. Quittez vos compagnons et venez avec moi. J'ai besoin de vous tenir dans mes bras. Venez. » C'est ensemble maintenant que nous nous reposerons. Venez, oh mon mari, venez donc. » Il y avait dans sa voix une douceur démoniaque, quelque chose qui ressemblait au tintement de verres qui s'entrechoquent, qui résonnait dans notre cerveau à chacun, tandis que nous écoutions les paroles qu'elle adressait à Arthur. Celui-ci, à la vérité, paraissait subir un charme, se découvrant le visage. Il ouvrit tout grand les bras. Elle allait s'y réfugier quand Van Helsing d'un bond fut entre eux, sa petite croix d'or à la main. Elle recula aussitôt et les traits soudain convulsés de rage, elle passa à côté du professeur en se précipitant vers le tombeau comme si elle voulait y entrer. Mais lorsqu'elle fut à un ou deux pieds de la porte, elle s'arrêta. Une force irrésistible l'empêcha d'aller plus loin. Elle se retourna vers nous, le visage parfaitement éclairé par les rayons de la lune et par la lumière de la lanterne que Van Helsing tenait maintenant d'une main ferme. Jamais je n'avais vu sur un visage une telle expression, tout à la fois de rancune et de dépit, et personne, je l'espère, n'en verra jamais de semblable. Les joues, jusqu'ici colorées, devinrent livides. Les yeux semblèrent jeter des étincelles venant tout droit de l'enfer. Les rides qui apparurent sur le front ressemblaient aux replis des serpents de la Méduse, et la charmante bouche, lèvres brillantes de sang, s'ouvrit presque en forme de carré, comme dans ces masques grecs ou japonais qui représentent la colère. Si jamais un visage a pu signifier un arrêt de mort, si jamais regards ont été capables de tuer, ce visage et ces regards, nous les avions à ce moment devant nous. Ainsi donc, pendant une demi-minute certainement, et qui nous parut une éternité, elle resta là entre la croix que Van Helsing gardait toujours levée et sa tombe dont l'hostie lui interdisait l'entrée. Le professeur mit fin au silence en demandant à Arthur « Dites, mon ami, « répondez-moi, dois-je poursuivre mon œuvre ?» L'autre s'agenouilla et le visage à nouveau enfoui dans les mains, il lui dit « Faites comme vous l'entendez, il n'y aura jamais rien de plus horrible que ceci. » Et il gémit, tandis que Quincy et moi, en même temps, nous approchions de lui pour le soutenir. Van Helsing posa la lanterne à terre, puis allant à la porte du tombeau, il se mit à enlever les parcelles du signe sacré qu'il avait placé çà et là. Alors, quand il se retira, nous vîmes surpris, terrifiés, cette femme dont le corps était aussi tangible que le nôtre passait à travers un interstice où il eût été difficile d'introduire une lame de couteau. Nous éprouvâmes tous un sentiment de soulagement lorsqu'avec calme, le professeur replaça autour de la porte les bandes de la fameuse patte. Ceci fait, il alla relever l'enfant et nous dit « Maintenant venez, mes amis, nous ne pouvons plus rien jusqu'à demain. » Un enterrement est prévu pour midi, de sorte que nous reviendrons peu après. Vers 2 heures, tous les parents et amis du défunt seront partis, et nous, nous resterons après que le fossoyeur aura refermé la grille. Alors, nous aurons beaucoup à faire, mais cela ne ressemblera pas du tout à ce à quoi nous venons de nous occuper. Quant à ce petit, il n'a pas trop souffert, et il sera complètement remis demain soir. Comme l'autre enfant, nous allons le laisser à un endroit où la police puisse le trouver, puis nous rentrerons.
« Mon cher Arthur, » fit-il en s'approchant de ce dernier, « cette épreuve est terrible pour vous, mais plus tard, Quand vous vous la remémorez, vous comprendrez à quel point elle était nécessaire. Les heures d'amertume dont je vous parlais, vous les vivez maintenant, mon garçon. Demain, plaise à Dieu, elles seront passées, vous connaîtrez une très grande tranquillité d'esprit, si même ce n'est pas le bonheur. Aussi, ne vous laissez pas trop abattre par le chagrin. Jusqu'à demain, je ne vous demande pas de me pardonner.
Je ramenai Arthur et Quincy chez moi, et sur le chemin du retour, nous essayâmes de nous rendre du courage les uns aux autres. Nous avions laissé l'enfant en lieu sûr et nous étions très fatigués. Tous trois, nous dormîmes plus ou moins bien.
29 septembre, au soir. Un peu avant 2 heures, Arthur, Quincy et moi passâmes prendre le professeur à son hôtel. Chose étrange, il se trouva que tous nous étions habillés de noir. Naturellement, Arthur était en grand deuil, mais c'est par une sorte d'instinct que chacun des autres de notre petit groupe s'était vêtu complètement de noir. Dès 1h30, nous arrivions au cimetière. Nous nous promenâmes dans les allées à l'écart, évitant d'être vus, de sorte que les fossoyeurs ayant terminé leur tâche et le sacristain ayant refermé la grille à clé puisqu'il croyait tout le monde parti, nous nous trouvâmes, somme toute, les maîtres du lieu. Van Helsing avait remplacé son petit sac noir par un sac de cuir de forme allongée, comme celui d'un joueur de cricket, et on devinait qu'il était très lourd. Lorsqu'ayant entendu les derniers pas s'éloigner sur la route, nous fûmes certains d'être seuls sans qu'aucun de nous eût rien dit. Nous suivîmes le professeur qui se dirigeait vers le tombeau. Il ouvrit la porte, et dès que nous fûmes entrés, nous la refermâmes derrière nous. Il prit dans son sac la lanterne qu'il alluma ainsi que les 2 bougies. Quand à leur tour elles furent allumées, il les fixa sur 2 autres cercueils grâce à la cire qu'il avait fait fondre à un bout de l'une et de l'autre, de la sorte elle donnait la lumière dont il avait besoin pour procéder à son travail. Quand une fois de plus il enleva le couvercle du cercueil de Lucie, tous nous regardâmes aussitôt, Arthur tremblant comme une feuille, et nous vîmes que le corps gisait, là, dans toute sa beauté. Mais dans mon cœur, il n'y avait plus de place pour l'amour. Seule la haine l'habitait, la haine que m'inspirait cette chose odieuse qui avait pris la forme de Lucie sans rien garder de son âme. Je vis que même le visage d'Arthur se fermait. Bientôt, il demanda à Van Helsing « Est-ce là vraiment le corps de Lucie, ou seulement un démon qui a pris sa forme ?»«
C'est son corps, et ce n'est pas son corps.
Mais attendez un moment et vous allez la voir telle qu'elle était et telle qu'elle est encore réellement. » En tout cas, on avait l'impression de vivre un cauchemar qui se serait appelé Lucie. Les dents pointues, les lèvres voluptueuses et couvertes de sang, et ceci seul aurait suffi à vous faire frémir d'horreur. Tout ce corps sensuel, visiblement dépourvu d'âme, c'était comme la dérision diabolique de ce qui avait été la douce candeur de Lucie. Méthodiquement, comme à l'accoutumée, Van Helsing se mit à retirer de son sac des instruments divers et à les placer de façon à les avoir sous la main. D'abord, il prit un fer à souder et un peu de soudure maigre, puis une lampe à huile qui, une fois allumée dans un coin du caveau, dégagea un gaz dont la flamme bleue donna une forte chaleur, puis les instruments mêmes qui devaient lui servir à l'opération. Enfin, un pieu en bois, cylindrique, épais d'environ 3 pouces et long d'environ 3 pieds. Il présenta au feu le bout de ce pieu, puis il le tailla en une pointe très fine. Un gros marteau fut enfin retiré du sac. Pour moi, voir un médecin se préparer à agir, cela avait toujours quelque chose de réconfortant, d'encourageant. Mais tous ces préparatifs inspirèrent à Arthur et à Quincy une véritable consternation. Tous deux, cependant, s'efforçaient de garder leur courage et ils restèrent très calmes et silencieux. Van Helsing nous dit alors « Avant de commencer quoi que ce soit, laissez-moi vous expliquer ce dont il s'agit. De fait, cette connaissance nous est transmise par la science et les expériences des anciens et de tous ceux qui ont étudié les pouvoirs du non-mort. Cet état de non-mort est étroitement lié à la malédiction d'immortalité. La mort est refusée à ces êtres et ils doivent de siècle en siècle faire de nouvelles victimes et multiplier les maux de la terre, car quiconque meurt ayant été la proie d'un non-mort devient à son tour non-mort et à son tour fait sa proie de son prochain. De sorte que le cercle va toujours s'élargissant comme les cercles qu'une pierre jetée dans l'eau forme à la surface de cette eau. Arthur, mon ami,
Si vous aviez embrassé Lucie quelques instants avant sa mort, comme vous en aviez le désir, ou si, l'autre nuit, vous l'aviez prise dans vos bras déjà ouverts pour la recevoir, vous seriez devenu, à l'heure de votre mort, un Nosferatu, comme on dit en Europe orientale, et les années passant, vous auriez fait de plus en plus de ces noms morts qui nous remplissent d'horreur. Comme non morte, la carrière de cette malheureuse jeune fille ne fait que commencer. Les enfants dont elle a sucé le sang ne sont pas encore dans un état désespéré, mais si, non morte, elle continue à vivre, ils perdront de plus en plus de sang, puisqu'obéissant au pouvoir qu'elle exerce sur eux, ils la rechercheront de plus en plus. De sa bouche odieuse, elle tirera jusqu'à leur dernière goutte de sang. Au contraire, si elle meurt réellement, tout le mal cessera. Les légères blessures disparaîtront de la gorge des enfants qui retourneront à leur jeu, oubliant toute leur aventure. Mais, chose plus importante encore et qui nous sera à tous une bénédiction, la mort véritable s'étant emparée de cette non-morte, l'âme de la pauvre et chère enfant sera à nouveau libérée. Au lieu d'accomplir pendant la nuit son œuvre maligne et le jour d'en subir de plus en plus l'humiliation, elle prendra sa place parmi les autres anges. Aussi, mon ami, sera-ce pour elle une main bénie que celle qui lui donnera le coup de grâce. Je suis prêt à le faire. Mais n'y a-t-il personne parmi nous qui mérite mieux que moi ce privilège? Quel bonheur de pouvoir penser désormais, éveillé dans le silence de la nuit, c'est ma main qui l'a envoyée parmi les étoiles, la main de celui qui l'aimait le plus au monde, la main qu'elle-même aurait choisie pour cela si elle avait pu choisir. Dites-moi, n'y a-t-il personne ici qui souhaite pouvoir se tenir à soi-même un tel langage? Tous nous regardions Arthur, et comme nous tous, il comprenait la généreuse intention qui animait Van Helsing quand il proposait que ce fût sa main à lui, Arthur, qui nous rende la mémoire de Lucie à jamais sacrée, alors que nous avions pu la croire souillée à jamais. Il s'avança et dit, d'une voix ferme encore que sa main trembla et que son visage fut blême, « Du fond de mon cœur, mon ami, mon véritable ami, je vous remercie. Dites-moi ce que je dois faire et je vous obéirai sans défaillir. » Brave garçon, il vous faudra un moment de courage, un seul, et tout sera fini. Il s'agit de lui passer ce pieu à travers le corps. Épreuve terrible, je vous le répète, mais elle sera brève, et ensuite votre bonheur sera d'autant plus grand que votre douleur était immense. Quand vous sortirez d'ici, il vous semblera avoir des ailes, mais une fois que vous aurez commencé, la moindre hésitation vous sera interdite. Pensez que nous sommes ici, nous, vos amis, qui vous entourons, et que nous prierons pour vous pendant ces minutes épouvantables. « Bon, » dit Arthur d'une voix étouffée par l'émotion. « Que dois-je faire ? Prenez ce pieu de la main gauche, la pointe placée sur le cœur et le marteau de la main droite. Quand nous commencerons à réciter la prière des morts, c'est moi qui la dirigerai à porter le livre, les autres me répondront, frappez au nom de Dieu afin que notre chair morte repose en paix et que la non-morte disparaisse à jamais. » Arthur prit le pieu et le marteau, et une fois qu'il fut fermement décidé à agir, ses mains ne tremblèrent pas le moins du monde, n'hésitèrent même pas. Van Helsing ouvrit le missel, commença à lire. Quincy et moi lui répondîmes de notre mieux. Arthur plaça la pointe du pieu sur le cœur de Lucie, et je vis qu'elle commençait à s'enfoncer légèrement dans la chair blanche. Alors, avec le marteau, Arthur frappa de toutes ses forces. Le corps dans le cercueil se mit à trembler, à se tordre en d'affreuses contorsions. Un cri rauque, propre à vous glacer le sang, s'échappa des lèvres rouges. Les dents pointues s'enfoncèrent dans les lèvres au point de les couper, et elles se couvrirent d'une écume écarlate. Mais à aucun moment Arthur ne perdit courage. Il ressemblait au dieu Thor, tandis que son bras ferme s'élevait et retombait, enfonçant de plus en plus le pieu miséricordieux, et que le sang jaillissait du cœur percé et se répandait tout autour. La résolution était peinte sur son visage, comme s'il était certain d'accomplir un devoir sacré, et à le voir, nous ne nous sentions que plus de courage, de sorte que nos voix, plus fortes, résonnaient maintenant dans le caveau. Peu à peu, le corps cessa de trembler, les contorsions s'espacèrent, mais les dents continuaient à s'enfoncer dans les lèvres, les traits du visage à frémir.
Finalement, ce fut l'immobilité complète. La terrible tâche était terminée. Arthur lâcha le marteau. Il chancela et serait tombé si nous n'avions pas été là pour le soutenir. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front et il haletait. L'effort qu'on avait exigé de lui, assurément, était surhumain. Et s'il n'y avait été obligé que par des considérations humaines, il ne l'eût jamais accompli. Pendant quelques minutes, nous fûmes donc occupés de lui seul, et aucun d'entre nous ne regarda plus le cercueil. Toutefois, lorsque nos yeux s'y posèrent à nouveau, nous ne pûmes retenir un murmure de surprise. Nous regardions, avec une attention telle qu'Arthur se leva, il s'était assis sur le sol, et vint regarder lui aussi. Et sur son visage, une expression de joie remplaça la détresse et l'épouvante. Là, dans le cercueil, ne gisait plus l'horrible non-morte que nous avions fini par redouter et par haïr à un tel point que le soin de la détruire avait été accordé comme un privilège à celui d'entre nous qui avait le plus de droits. C'était Lucie comme nous l'avions connue de son vivant, avec son visage d'une douceur et d'une pureté sans pareille. Le chagrin, les soucis, les souffrances avaient, il est vrai, marqué ce visage, mais il ne nous était que plus cher. Chacun de nous sentit à ce moment que la sainte tranquillité qui se répandait tel un rayon de soleil sur ce pauvre visage et sur ce pauvre corps n'était qu'un gage, qu'un symbole terrestre du repos éternel. Van Helsing vint poser sa main sur l'épaule d'Arthur et il lui demanda « Maintenant, dites-moi, mon ami, mon cher Arthur, est-ce que vous me pardonnez ?» Alors seulement quand il prit dans la sienne la main du vieux professeur, Arthur réagit à l'effort presque inimaginable qu'il avait dû fournir. Cette main, il la porta à ses lèvres, la baisa longuement, puis il s'écria « Si je vous pardonne, Dieu vous bénisse, vous qui avez rendu son âme à ma bien-aimée et à moi la paix. » Ses deux mains sur les épaules de Van Helsing et la tête contre sa poitrine, il se mit à pleurer tout bas, tandis que nous restions là, sans bouger. Quand enfin il leva la tête, Van Helsing lui dit « Et maintenant, mon enfant, vous pouvez l'embrasser. Posez, si vous voulez, un baiser sur ses lèvres de morte, ainsi qu'elle l'eût souhaité, car à présent, elle n'est plus un démon au sourire affreux, et elle ne le sera plus de toute éternité. Elle n'est plus une non-morte suppôt du diable, elle est une vraie morte de Dieu, et son âme est près de lui. » Arthur se pencha et mit un baiser sur le visage paisible, puis nous les fîmes sortir du tombeau, Quincy et lui. Alors, j'aidai le professeur à scier le haut du pieu, laissant la pointe enfoncée dans le corps, puis nous coupâmes la tête et remplîmes la bouche d'ail. Enfin, le cercueil de plomb étant soudé et le couvercle du cercueil de bois vissé à nouveau, nous rassemblâmes tous les outils et sortîmes à notre tour. Lorsque le professeur eut refermé la porte à clé, il remit celle-ci à Arthur. Dehors, l'air était doux. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Il semblait que la nature entière s'était mise à un autre diapason. Tout, partout, nous paraissait joyeux et calme, car nous-mêmes éprouvions une tranquillité profonde, encore que cette joie en nous fût fort tempérée. Avant de nous éloigner, Van Helsing tint à nous avertir. « Maintenant, mes amis, la première partie de notre travail est faite, la plus dure pour nous, mais il reste une autre tâche, en un sens plus importante, découvrir l'auteur de tous ces malheurs et le faire disparaître de ce monde. Je possède certaines clés qui, dans une certaine mesure, faciliteront nos recherches, mais cette tâche sera longue, comportera des dangers et encore des souffrances. Vous m'aiderez, n'est-ce pas ?» Tous nous avons maintenant appris à croire, et puisqu'il en est ainsi, nous voyons où est notre devoir. N'est-ce pas votre avis? Et n'avons-nous pas promis d'aller jusqu'au bout? Tour à tour, nous lui serrâmes la main en lui promettant de l'aider. Lorsque nous nous mîmes à marcher, il reprit. « Demain soir à 7 heures, nous dînerons ensemble chez notre ami John. J'inviterai 2 autres personnes que vous ne connaissez pas encore. » À ce moment, tous mes plans seront prêts et je vous les expliquerai. Mon cher John, revenez avec moi. Je dois vous consulter sur certaines choses. Ce soir, je pars pour Amsterdam, mais je serai de retour demain soir déjà. Et alors commencera notre grande investigation. Toutefois, j'ai beaucoup à vous dire auparavant. Je
je dois vous mettre au courant de tout ce qu'il y a à faire et de tout ce qu'il y a à redouter. Pourtant, une fois que nous nous serons mis à l'œuvre, nous ne pourrons plus reculer.